Et donc, la dernière fois, cette slide-là, on était arrivé au bout. On avait terminé notre précédente séance sur le brevet, et notamment, plus précisément, sur les limites du brevet. Et on avait constaté qu'il y avait pas mal d'éléments qui faisaient que... Finalement, le brevet, qui est normalement un outil qui permet d'avoir un monopole d'exploitation sur une invention, permet assez rarement de maintenir ce type de position de monopole, voire même de maintenir une très forte différenciation sur un marché. Et parmi les raisons qui explique ça, il y a la possibilité de les contourner, les difficultés de faire respecter ces droits parce que c'est coûteux, risqué, etc. Et puis enfin, le fait que dans de plus en plus de secteurs aujourd'hui, on a aussi besoin d'avoir accès à d'autres technologies que celles qu'on maîtrise soi-même, c'est-à-dire qu'on a besoin d'accès à des technologies brevetées par d'autres, si bien qu'on est souvent obligé d'accorder des licences à d'autres entreprises pour pouvoir soi-même obtenir des licences sur les brevets dont on a besoin. Mais alors du coup, si on constate ça, on pourrait se poser la question, mais alors pourquoi les dépôts de brevets augmentent de façon relativement régulière, hein, et il y a notamment eu un boom dans les années 90-2000. Maintenant, la croissance s'est un peu ralentie, sauf en Chine. Mais il n'empêche que ça reste à des niveaux élevés et ça reste avec un taux de croissance positif. Alors, l'explication, c'est que le brevet, ça ne sert pas qu'à se protéger. À l'époque, c'était le directeur de la propriété intellectuelle de PSA Peugeot Citroën et le directeur brevet. On avait fait ce schéma pour essayer de montrer en un seul, une seule figure, tous les principaux rôles du brevet. Alors, vous voyez, il est organisé par axes. Et puis, vers le haut, vous avez des dimensions qui sont plus liées aux relations avec l'externe. Et puis, en bas, des éléments qui sont plus liés à l'interne. Si je prends l'axe A, qui correspond à un axe autour de l'appropriation des inventions, la partie vis-à-vis de l'extérieur, bah c'est l'aspect classique, hein, celui dont on vient de dire qu'il n'était pas toujours efficace. Bon, après, il arrive quand même, hein, que des entreprises parviennent à protéger un certain temps des technologies qui, dans des cas extrêmes, mais rares, leur permettent de garder un monopole sur un marché ou un segment de marché, mais dans des cas plus fréquents, de garder des éléments de différenciation avec les concurrents. Donc, c'est quand même, ça reste le rôle principal du brevet, même si on a vu que c'est pas toujours extrêmement efficace. Si on se place maintenant du point de vue de l'interne, c'est aussi un outil qui va permettre de clarifier la propriété de l'invention entre le salarié et l'entreprise. Quand vous faites une invention dans le cadre de vos missions en entreprise, l'invention appartient à l'employeur. Il vous paye pour ça, donc l'invention lui appartient. Il n'y a pas besoin pour ça qu'il y ait dépôt de brevet. Simplement, s'il n'y a pas de dépôt, de système permettant un dépôt assez régulier de brevets, on n'aura pas une très très forte incitation pour les salariés de formaliser leurs idées d'invention le plus tôt possible. Et donc, le risque, c'est que si jamais ils ont une idée qu'ils ne la diffusent pas au sein de l'entreprise, qu'elle reste essentiellement dans leur cerveau et que ils s'en vont, Bah, vous ne pourrez jamais savoir que le cœur de l'invention, ils l'ont faite chez vous. Donc en fait, en tant qu'employeur, hein, parce que nous, on se situe du point de vue de l'entreprise, bah, vous ne saurez jamais que vous auriez dû être propriétaire de cette invention. Le fait d'être une entreprise qui dépose des brevets, ça fait que vous mettez en place des dispositifs déjà pour inciter les salariés à déclarer leurs inventions. Souvent, les dépôts de brevets sont associés à des primes, hein, donc déjà, ça, c'est un incitateur en soi, mais même le fait d'être le prestige qui est associé au fait d'être un inventeur dans un brevet, etc., ça peut inciter des salariés à déposer ce qu'on appelle un mémoire d'invention auprès des services compétents de l'entreprise, alors que ils auraient peut-être ils n'auraient peut-être pas pris le temps de rédiger ce document si jamais il n'y avait pas eu cette perspective de possiblement déposer un brevet derrière. Donc voilà, ça ne veut pas dire que quand il n'y a pas de brevet, il n'y a pas de. Enfin, que les règles sont différentes quand il y a brevet ou quand il n'y a pas de brevet. Hein. Encore une fois, même s'il n'y a pas de dépôt de brevet, l'invention faite par un salarié dans le cadre de ses missions appartient à l'employeur. Mais, et de même que parfois, même avec des incitatifs, les salariés rechignent un peu à remplir ces fameux mémoires d'invention. Et puis on peut peut-être trouver d'autres formes d'incitation. Il n'empêche que l'incitation la plus courante, c'est la perspective de pouvoir déposer des brevets. L'axe B, c'est un axe autour de la financier, hein, de. Je dirais presque d'espèces sonnantes et trébuchantes. Alors, vis-à-vis de l'extérieur, c'est la possibilité d'accorder des licences en échange de royalties, donc de faire rentrer tout simplement des flux financiers appelés redevances ou royalties. Donc dans l'entreprise, sachant que dans la plupart des entreprises, c'est assez marginal. Mais que certaines entreprises en ont fait le cœur de leur business model. Par exemple, beaucoup d'entreprises de biotechnologie n'ont pas pour objectif final d'amener un médicament jusqu'au marché parce que c'est très très long, très très risqué, etc. Mais plutôt à un moment donné de céder une licence à un grand laboratoire pharmaceutique qui lui a à la fois les moyens de mener à bien les études cliniques, etc. Et puis a un flux, lui, de projets qui fait que même s'il y en a 90% qui ne deviennent pas des médicaments, bah, lui, il va vivre avec les 10% qui vont le devenir. Alors que vous, si vous n'avez qu'un seul projet, bah, vous avez une probabilité de 90% de ne jamais faire un seul euro de chiffre d'affaires. Du point de vue interne, le brevet peut être une forme d'outil d'optimisation fiscale, en ce sens que la plupart des pays cherchent à attirer les activités de recherche et développement sur leur sol, que dans ce cadre-là, souvent, elles accordent une fiscalité plutôt avantageuse au flux de royalties, puisque bah, si vous avez des activités de R&D sur votre sol, ça veut dire que bah, vous allez avoir des acheteurs de technologies qui peuvent être externes à vos entreprises nationales, mais qui peuvent être aussi les filiales des mêmes groupes. Hein, puisqu'une grosse partie des flux de royalties dans le monde sont en fait des flux à l'intérieur même des groupes d'entreprises. Et donc si vous générez des flux de royalties au sein de votre groupe, généralement, ça va réduire la fiscalité par rapport à la même situation. C'est-à-dire que concrètement, si vous prenez le cas français, vous allez payer. Des impôts sur les royalties que vous faites rentrer, mais ce taux est inférieur au taux de l'impôt sur les bénéfices. Or, du coup, vous allez payer une sorte d'impôt forfaitaire sur les royalties, mais après, vous n'aurez plus à les comptabiliser dans votre résultat fiscal. Donc, au bout du compte, vous aurez payé moins d'impôts que si, il n'y avait pas eu les flux de royalties en question. Donc, vous avez intérêt à générer ce type de flux. Par exemple, si vous avez une usine en Espagne, vous avez intérêt à ce que, l'usine en Espagne, la filiale espagnole, vous paye des royalties pour les technologies brevetées qu'elle utilise. Simplement, bah, si vous avez un contrôle fiscal, il va quand même falloir pouvoir justifier de ces royalties. Dans l'absolu, on peut très bien avoir une licence sur des savoir-faire, hein. On pourrait très bien avoir ces flux de royalties sans les brevets. Mais c'est vrai que les brevets permettent quand même de formaliser les choses, parce que réussir à justifier sur la base de savoir-faire, si c'est raisonnable, bon, ça passera peut-être. Mais voilà, vous ne pourrez pas justifier des gros flux de royalties s'il n'y a pas. Ce sera difficile de justifier des flux de royalties importants s'il n'y a pas des brevets derrière. Ensuite, bah, l'axe C, vous voyez qu'il est un peu à l'intersection entre l'interne et l'externe. C'est vraiment un axe autour. De la négociation justement entre l'interne et l'externe. C'est-à-dire que à la fois c'est un outil de négociation. Vous pouvez, je l'ai un peu évoqué, dans les limites de l'efficacité du brevet comme outil de protection, je vous ai dit, bah, dans certains cas, vous avez besoin des technologies des autres pour pouvoir sortir vos propres produits. Donc évidemment, ça peut vous conduire à accorder des licences aux autres en échange des licences dont vous avez besoin de leur part. Et ça, c'est ce qu'on appelle un accord de licence croisé. Et donc ça, c'est permis par le fait que vous avez vous-même des brevets, sinon vous n'avez rien à leur licencier en échange. Et puis, en amont, avant, dans les partenariats de recherche et développement, c'est vrai que le fait qu'il y ait une culture, on va dire, du dépôt de brevets, ça peut faciliter les choses dans la mesure où c'est plus facile de prévoir dans un contrat de partenariat qui va déposer les brevets, quel type de licence il va accorder à l'autre partenaire, dans quel domaine, puisque vous pouvez très bien dire, voilà. Moi, mon domaine principal, c'est celui-là. Vous, votre domaine principal, c'est le domaine B. Moi, c'est le A. Eh bien, tous les brevets qui concernent le domaine A, c'est moi qui vais les déposer. Je vous accorderai une licence gratuite. Tous les brevets qui concernent le domaine B, vous allez les déposer et vous m'accorderez une licence gratuite. Et puis, si jamais on trouve des choses qui sont ni A ni B, ça arrive, hein, eh bien, à ce moment-là, on fera du co-dépôt de brevet, par exemple, hein, puisqu'on peut tout à fait être copropriétaire d'un brevet à plusieurs. Donc, vous voyez ça, vous pouvez le prévoir à l'avance. C'est plus compliqué quand il s'agit de savoir-faire, parce que le savoir-faire, par nature, il n'est pas formalisé. Donc, enfin, il peut l'être, hein, mais il ne l'est pas automatiquement. Enfin, toujours dans cette optique de l'autre côté, mais toujours sur l'axe C, le simple fait de détenir un portefeuille important de brevets peut faire que d'autres entreprises peuvent hésiter à vous attaquer. Si je prends justement dans le secteur automobile, ça joue un rôle important. C'est-à-dire que c'est à la fois des entreprises qui sont extrêmement exposées aux brevets des autres, hein, puisque dans une voiture, vous avez de la mécanique, des processus de fabrication, de l'électronique, de l'informatique, des télécommunications, de la chimie, de la physique, etc. Donc en fait, ça fait partie des équipements ou des produits, tout simplement, qui sont parmi les plus complexes et les plus exposés à un très grand nombre de brevets. Et néanmoins, si vous regardez bien, il y a très très peu de litiges en matière de brevets entre les constructeurs automobiles. Alors, il y en a quelques-uns qui se règlent en coulisses. Hein, ça veut pas dire que de temps en temps, ils ne s'envoient pas une petite lettre recommandée. Mais néanmoins, globalement, ils s'attaquent très peu. Ils s'attaquent très peu parce qu'ils savent très bien que si jamais demain Volkswagen attaque Renault sur la base d'une contrefaçon de brevet, ils sont à peu près sûrs que dans la semaine qui suit, Renault attaquera Volkswagen sur la base d'une contrefaçon de brevet. Parce que il y a tellement de milliers de brevets qui sont impliqués qu'ils ne peuvent pas vérifier brevet par brevet, produit par produit, que effectivement, il n'y a absolument aucune même micro-contrefaçon dans leurs produits. Donc, du coup, ça ne veut pas dire qu'ils se réservent pas le droit de le faire s'ils pensent qu'il y a une contrefaçon grave sur quelque chose sur lequel qui est un vrai critère de différenciation de leurs produits par rapport aux autres, mais ils vont pas le faire pour des petites contrefaçons, notamment si elles sont manifestement involontaires. Donc il y a quand même cet effet où on va être moins attaqué parce que soi-même on a des brevets, même si on n'a pas signé d'accord de licence croisée. Ensuite, l'axe D, c'est un axe autour, on va dire, infocom, hein, information-communication. Vis-à-vis de l'extérieur, le fait de déposer des brevets, c'est donc un outil de communication, aussi bien au niveau des produits. Hein. Il y a régulièrement des exemples de produits qui mettent en avant le nombre de brevets déposés pour montrer comme ils sont innovants. C'est vrai aussi au niveau de l'entreprise. Il y a parfois aussi de la communication institutionnelle qui met en avant le nombre de brevets déposés par une entreprise. Et d'une manière générale, la communication financière en général d'une entreprise. Vous trouvez assez facilement dans un rapport annuel, hein, le nombre de brevets déposés par une entreprise si elle est innovante. Parce que ça véhicule cette image d'entreprise innovante. Au passage, au niveau des startups, puisque c'est quand même une des orientations fortes du master, ça a une importance particulière dans la mesure où l'image d'innovateur d'une entreprise, c'est tout un ensemble de choses. Et elle passe quand même avant tout par ses produits. Je suis persuadé que si je faisais un sondage, vous considéreriez que Apple est une entreprise innovante de façon très majoritaire. Et pourtant, vous n'avez aucune idée du nombre de brevets déposés par Apple. Donc, ce n'est pas au nombre de brevets qu'ils déposent que vous vous repérez pour considérer qu'Apple est une entreprise innovante. C'est à ses produits. Par contre, si vous êtes une start-up, vos produits souvent ne sont pas encore sortis. Quand ils sont sortis, ils sont encore diffusés à petite échelle. Hein. Du coup, le seul moyen, enfin un des seuls, pas le seul, mais un des seuls moyens de démontrer que vous êtes en train d'innover, eh bien, c'est à travers le dépôt de brevet. Du coup, ça a une importance particulière aussi vis-à-vis des investisseurs, parce que ça veut dire que effectivement vos projets de R&D aboutissent à des résultats. Ça veut dire aussi que si jamais ça tournait mal financièrement, il y aurait encore de l'actif. De même que si l'équipe sur lesquelles ils ont misé, puisque c'est souvent ça joue beaucoup dans le choix des investisseurs, venez à s'en aller ou à s'éclater dans un conflit comme ça arrive pas si rarement, eh bien là encore, il leur resterait au moins les brevets. Bref, c'est particulièrement important en termes de communication pour une start-up. Au niveau interne, c'est aussi un outil de communication, de valorisation, notamment des inventeurs, hein, qui sont souvent mis en avant. Alors, ça peut être à travers des concours, ça peut être à travers des journaux internes, ce genre de choses. Et c'est aussi un outil de management des connaissances. Hein, donc KM, c'est Knowledge Management, en ce sens que c'est un titre qui a été vraiment conçu dès le départ pour permettre la recherche d'informations techniques, et ce, avant que n'existent les moteurs de recherche et encore moins l'intelligence artificielle. Donc du coup, bah, ce sont des documents qui sont structurés d'une façon assez harmonisée, même au niveau international, donc avec des classes de produits, de technologies qui permettent de retrouver plus facilement à quoi se rapporte un brevet au-delà de ces mots-clés. Et puis ils sont toujours construits de la même façon, donc on retrouve assez facilement des informations qui sinon risqueraient d'être dispersées sous des formes différentes. Et notamment, bah, certains consultants, par exemple spécialistes de la question, conseillent de structurer les mémoires d'invention comme si c'était des brevets, parce qu'ensuite, ça permet de retrouver, ça facilite le dépôt de brevet si on va jusqu'au bout, mais même si on ne va pas jusqu'au bout du dépôt de brevet, ça permet à l'entreprise de garder en interne une base qui est structurée de la même façon qu'est structurée une base de brevet. Enfin, l'axe E, c'est cette fois tout ce qui concerne le brevet, non plus comme un output du processus d'innovation, mais comme un input. Donc c'est à la fois un outil de veille technologique, c'est même le principal outil de veille technologique. Alors évidemment, ce à quoi on s'intéresse dans le cadre de l'outil de veille, c'est avant tout au brevet des concurrents. Donc même si on ne dépose pas de brevet soi-même, on peut tout à fait utiliser très efficacement les brevets des autres pour faire de la veille technologique. Le fait d'en déposer soi-même, ce n'est donc absolument pas une obligation pour utiliser ce rôle-là, simplement ça va le faciliter. Ça va le faciliter d'une part parce que ben, si vous êtes habitué à déposer des brevets, comme c'est quand même un document qui est encore une fois structuré d'une certaine manière, avec son langage à lui. Il y a la description de l'invention, mais il y a aussi tout ce qui est revendication, il y a toute la partie juridique du brevet derrière. Si bien que vous allez sans doute pouvoir mieux tirer parti des brevets des autres si vous avez vous-même une certaine expérience du dépôt. De la façon dont se passent les échanges avec un examinateur d'un office des brevets, etc. D'autre part, les rapports qui sont remis par les examinateurs peuvent parfois aussi contenir des informations intéressantes pour vous. Des brevets, par exemple, qui avaient échappé à votre vigilance au moment où vous avez décidé de lancer la procédure de dépôt. Et puis, bah, des brevets peuvent aussi servir de base à des méthodes de créativité. Donc, vous pouvez vous appuyer sur des brevets pour essayer de voir bah, comment on a innové dans un domaine, comment les concurrents notamment ont innové dans le domaine, et voir si vous ne pourriez pas trouver d'autres voies pour innover en partant de ce qu'ont fait les autres, en s'écartant, en faisant des variantes. Voilà. En tout cas, ça, au lieu de partir de zéro, ça vous permet de partir sur une base. Donc voilà, vous voyez que le brevet ne sert pas seulement à se protéger contre l'imitation. Alors, je reprends le fil, hein. Nous étions, parce que là, du coup, ça fait un petit moment qu'il y a eu la deuxième séance, ce n'est pas forcément évident, on était dans les magnétoscopes, hein. C'était Ampex qui avait lancé le premier magnétoscope, qui était donc une grosse machine très chère, mais qui était utile pour les studios de télévision. Et donc, comme ils sont les premiers, ils déposent une série de brevets, hein, sur leur magnétoscope. On en était arrivé à cette question de l'efficacité du brevet à travers justement ce cas-là. Puisque donc, dans le cas, dans son cas, il y a un bilan qui est un peu, qui est pas extrêmement tranché, finalement, puisque, on l'avait dit, Ampex va accorder rapidement des licences à RCA et à Sony, si bien que, de toute façon, il ne reste pas en étant le seul à pouvoir, utiliser les inventions nécessaires pour faire fonctionner son magnétoscope. En même temps, de toute façon, qu'aurait pu faire Ampex à part essayer de se protéger par des brevets? Bah, pas grand-chose, parce que la grande alternative au brevet, c'est le secret, hein. Mais le secret, vous n'allez pouvoir l'utiliser que quand vous pouvez effectivement le conserver, ce secret. Dit comme ça, hein, ça donne l'impression d'enfoncer une porte ouverte, sauf que bah, il faut quand même toujours garder ça à l'esprit quand on parle du dilemme brevet-secret. Et là, typiquement, le magnétoscope, c'est un produit démontable, hein. Il est vendu, donc rien n'empêche un concurrent de l'acheter. Donc là, en l'occurrence, comme en plus il y avait une certaine solidarité au Japon pour essayer de redresser le pays, eh bien, la télévision japonaise avait acheté un premier magnétoscope Ampex alors pour l'utiliser, mais ils avaient invité les entreprises susceptibles un jour de fabriquer des magnétoscopes à l'examiner de manière approfondie. Et de fait, à l'issue de cet examen approfondi, hein, Sony a été capable de pouvoir répliquer le magnétoscope d'Ampex. C'est-à-dire qu'ils étaient capables de faire un prototype qui était grosso modo identique et qui fonctionnait comme le magnétoscope d'Ampex. Évidemment, à ce moment-là, ils n'avaient pas encore leur licence. Donc, ils ne pouvaient pas encore le commercialiser. Hein. Mais ça montre bien que si Ampex avait compté sur le secret, eh ben, en très très peu de temps, il aurait été imité et un grand nombre d'entreprises auraient été capables de proposer des magnétoscopes à peu près identiques aux siens. Ben, l'année suivante, du coup, Sony va négocier cette fameuse licence avec Ampex. La contrepartie ici, c'est un partenariat de recherche et développement, puisque Sony s'est déjà fait remarquer par le fait que ça a été une des toutes premières entreprises à proposer un poste radio à transistor, donc un premier produit grand public utilisant le transistor, qui au milieu des années 50, c'était quelque chose de tout nouveau. Donc ils ont acquis un vrai savoir-faire déjà à la fin des années 50 sur l'utilisation du transistor. Or, Ampex se rend bien compte que pour faire des magnétoscopes moins chers et moins encombrants, il va falloir eh bien, transistoriser, comme on dit, l'essentiel de l'électronique du magnétoscope. Donc ils se disent que Sony va les aider à utiliser le transistor dans les différentes parties du magnétoscope. Et puis par ailleurs, si vous vous souvenez, RCA, lui, c'est un accord de licence croisée entre les technologies du magnétoscope d'un côté et les technologies de la télévision couleur de l'autre. Donc Ampex se dit qu'en cédant sa technologie sur le magnétoscope, il peut obtenir un accès au marché naissant de la télévision couleur. De toute façon, du coup, c'est aussi une bonne illustration. Il semble, parce qu'évidemment, moi, je n'ai pas les moyens techniques de le vérifier, mais c'est ce que j'ai lu dans un article sérieux, académique. C'est que de toute façon, en 1963, les technologies utilisées par Ampex dans son magnétoscope au départ avaient été contournées. Donc là, c'est une bonne illustration de ce que je vous ai dit sur le fait que, en règle générale, on peut trouver une autre manière de réaliser, enfin de résoudre un problème technique que celle qui a été brevetée et qui vous gêne. Alors il y a quelques exceptions, on n'arrive vraiment pas à contourner l'invention d'origine, mais dans la plupart des cas, on va pouvoir trouver une autre manière d'obtenir le même résultat. Alors ici, hein, il faut quand même se souvenir, ceci étant, que le magnétoscope d'Ampex est déjà sorti depuis 7 ans. Quand toutes ces technologies sont contournées. Donc, ça veut dire que s'il n'avait pas accordé de licence, il aurait pu rester 7 ans tout seul à vendre des magnétoscopes, ce qui est quand même déjà voilà, une situation très, très confortable. Donc, vous voyez, du coup, bilan qui est pas extraordinaire en ce sens qu'on est très loin de Xerox, restant pendant très longtemps le seul à proposer des photocopieurs, puisque assez vite, il y a Sony et RCA qui vont être en mesure de le faire.
Tu sais, ce matin, j'ai prié pour toi. J'ai dit, quoi, mon mari, il est malade, ce pauvre
Ah, alors il faudrait
et tout.
couper votre
Il faut pas qu'il
micro.
avale une porte pendant l'épreuve, parce que ça, c'est horrible et tout. Je suis vraiment contente. Franchement, je peux être très fière de toi. Dis-toi que tu as réussi en n'étant pas dans les meilleures conditions.
Alors, bravo effectivement à la personne à qui ça s'adressait. Je ne sais pas pourquoi, mais visiblement, il méritait des félicitations. Tac-tac-tac. Ce que j'étais en train de dire, c'était que oui, d'un côté, il n'y avait pas eu ce monopole de très longue durée, mais de l'autre, bah, finalement, ça lui a quand même permis d'accéder à une partie des compétences de Sony, ça lui a quand même permis d'accéder au brevet de RCA sur la télévision couleur, et ça lui a quand même permis de retarder l'arrivée des concurrents qui sinon auraient de toute façon pu imiter assez facilement son magnétoscope. Donc on voit que voilà, c'est ni le scénario idéal qu'on s'imagine parfois quand on se dit j'ai déposé des brevets, donc je suis protégé, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui serait uniquement négatif. On voit que ça reste quand même quelque chose qui a été très utile à Ampex. Alors, bah, du coup, on va voir la suite, hein, de la vie de nos magnétoscopes. Où Sony donc va jouer un rôle important. Et en 1960, donc peu de temps après avoir obtenu la licence, hein, de la part d'Ampex, Sony va lancer un programme franchement ambitieux, puisque le but. C'est de vendre des magnétoscopes au grand public, hein, donc de changer complètement l'échelle du marché, ce qui implique de simplifier énormément son utilisation, de réduire considérablement sa taille, et puis le but de Sony était de diviser par 100 son prix. Alors, vous voyez que là, on n'est pas dans des petites, des petits ajustements. Hop, désactiver le son de Paul. On n'est pas dans une légère diminution du prix, hein, on est vraiment dans un changement total d'ordre de grandeur, puisqu'on part de 50 000. L'objectif était d'arriver à terme à 500 en passant par un objectif intermédiaire de 5 000. On voit que typiquement, quand on se fixe ce type d'objectif dans une entreprise, ça oblige à faire de l'innovation radicale, hein, à repenser largement le produit par rapport à se fixer des objectifs de moins 10 ou moins 20% pour lesquels on va pouvoir parfois, qu'on va parfois pouvoir atteindre en faisant de l'optimisation, si vous voulez. Alors, Sony se fixe cet objectif-là qu'ils ne considèrent pas comme irréaliste parce qu'ils ont tout à fait confiance justement dans les capacités de miniaturisation et la baisse du prix de tout ce qui est électronique. En 1961, il présente un premier prototype de magnétoscope qui est 100%, enfin, où toute la partie électronique est faite à base de transistors. Et en 1962, ils lancent leur premier magnétoscope qui est déjà beaucoup moins cher. Je crois que je n'ai pas le prix précis, mais qui est déjà beaucoup moins cher que les magnétoscopes d'origine d'Ampex, mais qui n'est pas encore suffisamment justement, enfin qui est encore trop cher et encore trop encombrant également sans doute pour viser directement le marché grand public. Donc cette fois, vous voyez, c'est à ça qu'il ressemblait. Cette fois, le marché visé, c'est plutôt un marché institutionnel, les entreprises, les écoles, les universités, partout, on peut être amené à passer des documentaires, voilà. En 1965, ils arrivent à passer sous la barre des 1000 dollars. Finalement, la barre des 500, alors elle finira par être atteinte, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard et enfin, si, j'imagine que même Sony va finir par y arriver, mais pas du tout au moment où ils avaient prévu. Et vous verrez que finalement, les prix des magnétoscopes vont rester pendant longtemps autour des 1000 dollars. Mais il faut garder à l'esprit qu'à l'époque, on n'a pas 2% d'inflation. Déjà dans les années 60, c'est nettement plus que nos 2% actuels. Et ce qui s'est passé il y a 2 ans, là, au moment de la crise inflationniste, c'était en fait des taux d'inflation qui étaient les taux normaux de l'époque. Et puis dans les années 70, on va avoir des taux assez fréquemment à deux chiffres, hein, au-dessus de 10% par an. Donc évidemment, du coup, en termes réels, hein, le prix du magnétoscope baissait, en effet, hein, et il est passé dans les années 70 sous la barre, on va dire, des 500 dollars de 1960, mais pas des 500 dollars de 1970. Et puis, pas supplémentaire en 1970, là cette fois, on vise clairement le marché grand public et on se dit que, bah, il ne va pas falloir arriver sur le marché grand public avec chacun son format de magnétoscope, hein, parce que ça risque de freiner les consommateurs qui risquent de se dire, bah oui, mais si au bout du compte... bah c'est un autre format qui l'emporte, je vais avoir investi pour pas grand-chose, ça va aussi freiner par exemple les studios de cinéma qui vont pas vouloir sortir leurs cassettes sous de multiples formats, etc. Donc ils sentent bien que ça, si chacun lance un magnétoscope incompatible avec celui des autres, ça va poser un problème. Et donc trois entreprises parmi les plus présentes dans ce domaine, on voit hein, que les Japonais ont largement pris le leadership sur ce marché, se mettent d'accord. Hein, donc il manque Toshiba hein, dans la bande, qui lui a son propre format. Mais donc Sony, JVC et Matsushita se mettent d'accord sur un standard commun. Ils appellent U-Matic. Et donc, en 1971, Sony lance son magnétoscope U-Matic. Ce sera le cas aussi de Matsushita, ce sera le cas aussi de JVC. Par ailleurs, ils accorderont des licences à d'autres fabricants potentiels de magnétoscopes. Hein, ce n'est pas un standard qui est censé leur être réservé. Ils l'ont conçu ensemble et après, il est ouvert à d'autres. Bon, voilà à quoi ressemblait. Hein. Un magnétoscope U-Matic. C'était encore un peu épais hein, par rapport à ce qu'on a connu par la suite, mais on voit que on a bien le compartiment pour ceux qui ont connu les cassettes VHS. Hein. On retrouve bien le compartiment tel qu'on le verra plus tard dans les magnétoscopes. Donc on se rapproche sérieusement du magnétoscope grand public. Ceci étant, bah, les ventes restent décevantes. Pour Sony, si les ventes restent décevantes, c'est tout simplement parce que bah, les performances du magnétoscope ne sont pas tout à fait à la hauteur de ce qu'elles pourraient être. Or, chez eux, on maîtrise déjà des technologies plus avancées. Donc, ils sont leaders hein, à ce moment-là. Mais pour vous donner une idée, alors on ne connaît pas le volume en nombre d'unités en Europe, aux États-Unis, au Japon, etc. Mais ce qui peut donner un point de repère, c'est qu'en 1973, la production totale japonaise de magnétoscopes, et les Japonais sont de loin les premiers fabricants de magnétoscopes dans le monde, s'élève à 100 000 unités. Donc on voit qu'on a évidemment complètement quitté les ordres de grandeur des quelques dizaines de magnétoscopes vendus à des studios de télévision dans les années 50, hein. Mais on est quand même très très loin du potentiel de l'ensemble des marchés des pays développés. Alors du coup, bah, comme ils considèrent que c'est à cause des performances du magnétoscope s'il ne se vend pas plus, bah, ils vont considérer qu'ils vont faire avancer la technique. C'est une entreprise d'ingénieurs, hein, souvenez-vous même de sa naissance comme entreprise qui réparait des matériels électriques et puis qui ensuite s'est mis à en concevoir des de plus en plus innovants magnétophones, post-radio à transistor, etc. Donc ils ont cette culture-là. Et du coup, ils proposent un nouveau standard en 1974, donc un magnétoscope plus performant que le U-Matic, même s'il en reprend certaines des caractéristiques. Et voilà, il est plus évolué, il donne des images de meilleure qualité, etc. Mais ce n'est pas non plus une révolution totale par rapport au U-Matic. Et puis, leur idée n'est pas du tout de se dire qu'ils vont être les seuls à proposer ça, hein, c'est-à-dire que dans leur idée, c'est le standard qui va remplacer l'U-Matic, et pour ça, il faut que plusieurs entreprises se mettent d'accord pour pouvoir bah, proposer le même que chacun, là encore, toujours la même logique, propose le même standard. Bon, voilà un exemple de magnétoscope Betamax. Alors au passage, donc ils vont le proposer, du coup ils vont le présenter à leur partenaire de U-Matic hein, et aussi à RCA qui est le numéro 1 américain dans le secteur. Au passage, Ampex, eux, ils ont essayé d'innover assez radicalement. Et ils ont essayé de créer une forme de caméra magnétoscope. Donc ils l'ont conçu, ils sont allés au bout de l'élaboration technique, mais en fait, ils n'arriveront jamais à l'industrialiser. Donc alors ça, on y reviendra dans le cours de spécificité, j'allais dire spécificité de la gestion d'un projet innovant, c'est le nom du cours l'année dernière. Donc gérer un projet innovant 21e siècle, on reviendra sur ces problématiques d'industrialisation. Je ne les développe pas davantage maintenant, mais gardez d'ores et déjà à l'esprit que un produit peut tout à fait connaître l'échec sur cette base-là. C'est-à-dire que là, c'est pas, on ne sait pas comment aurait été accueilli son Insta vidéo, s'il aurait été un produit en avance de phase et trop en avance pour le consommateur, ou si ça aurait été un triomphe qui aurait fait d'Ampex à nouveau le numéro 1 du secteur. On ne saura jamais, puisque de toute façon, ils n'ont jamais pu le lancer. Et donc, du coup, bah, même s'ils sont restés longtemps parmi les leaders, du coup, Ampex, c'est un pionnier qui n'est pas resté leader. Et du coup, c'est souvent pris comme un contre-exemple, hein, de ce qu'on appelle l'avantage du pionnier. Alors, bah, du coup, on va s'intéresser à la suite du Betamax parce que justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir ici la première grande guerre de standard de Sony. Alors, l'accueil est un petit peu mitigé de la part de ses partenaires et notamment, on se dit que certes, l'image est de qualité pour l'époque, hein, mais la durée des cassettes pourrait être un problème, et notamment puisque les cassettes sont plus courtes que la durée classique d'un film. Donc voilà, on pressent que ça pourrait être un frein à l'achat. Et de fait, il y a une étude de marché qui est faite aux États-Unis et qui confirme que les consommateurs sont sensibles à la durée de la cassette et que ça pourrait en effet être un frein à l'achat. Donc notamment vis-à-vis de RCA, c'est un problème potentiel. Néanmoins, bah Sony décide de lancer quand même son magnétoscope en se disant que bah, ils pourront, si vraiment c'est le cas, allonger par la suite la durée des cassettes. Ils savent qu'il y a des possibilités en la matière, mais ils considèrent que puisque le U-Matic se vend mal, il fallait lancer le Betamax le plus rapidement possible, et notamment sur un marché qui semblait moins sensible à la question de la durée des cassettes, donc leur marché domestique qui est le Japon. Ils vont continuer à négocier avec des partenaires potentiels, hein, notamment avec Hitachi et Matsushita. Mais à ce moment-là, il n'y a que Sony qui propose des magnétoscopes Betamax. Donc Toshiba continue à proposer son propre standard qui marche vraiment pas très fort. Et à ce moment-là, Matsushita et JVC continuent à proposer des magnétoscopes U-Matic. Ceci étant, le fameux JVC, eux font savoir aux entreprises du secteur qu'ils travaillent sur un standard alternatif à celui de Sony, qu'ils appellent Video Home System, donc VHS. En 1976, Sony se lance cette fois sur le marché américain, sachant que bah, dans la première partie de l'année 1976, ils sont toujours les seuls à proposer des magnétoscopes de cette génération-là. C'est-à-dire que bah, on vend encore des U-Matic. Par ailleurs, Philips vendait des magnétoscopes avec un autre standard, et Toshiba sans doute également sur le marché américain. Mais c'est des standards un peu dépassés sur le plan technique, et donc Sony est le seul à proposer des magnétoscopes de nouvelle génération, on va dire. Et il s'en vend 70 000 exemplaires, ce qui est mitigé, on va dire, ce qui est loin d'être négligeable par rapport aux chiffres de l'époque, hein. Souvenez-vous que quelques années avant, l'ensemble de la production japonaise, c'est 100 000. Donc vendre 70 000 exemplaires sur le seul marché américain, c'est pas mal. Ça veut dire que le Betamax se vend quand même mieux que le U-Matic. Mais ce n'est pas non plus la ruée vers le Betamax. Et bah, ça donne quand même suffisamment de signaux positifs pour que Toshiba, qui du coup abandonne son propre standard, et Sanyo, et donc une autre entreprise japonaise, hein, rejoignent le Betamax. L'annonce de JVC sur le fait qu'il travaillait sur un standard alternatif a quand même créé un certain attentisme, parce que malgré le fait que le ministère de l'industrie japonais poussait plutôt les entreprises à adopter le standard de Sony, les autres, hormis Toshiba et Sanyo, les autres préfèrent attendre de voir à quoi ressemblera ce fameux Video Home System. Et en septembre 1976, JVC lance son magnétoscope VHS. Alors on voit que là, on se retrouve dans ce qu'on appelle une guerre de standards. C'est-à-dire qu'on a deux systèmes de même génération qui sont incompatibles l'un avec l'autre. On ne peut pas lire une cassette Betamax sur un magnétoscope VHS et vice-versa. Et qui vont lutter pour probablement une prééminence sur le marché. Alors on peut imaginer que les deux survivent l'un à côté de l'autre. Hein. On ne sait pas encore à l'époque. Hein, ça existe parfois des standards qui coexistent sur un même marché. Mais bon, on voit qu'il y a deux clans qui vont s'affronter, puisque sur le U-Matic, JVC et Sony étaient dans le même clan qui était le seul. Ici, ils sont l'une face à l'autre. Alors, JVC, c'est une entreprise plus petite que Sony, hein, qui a déjà pris un peu d'ampleur dans les années 70. Donc a priori, on pourrait se dire que Sony a un avantage. Ils sont partis en avance, ils ont déjà vendu un nombre non négligeable de magnétoscopes Betamax, si bien que pour l'instant, par exemple, si vous êtes un studio de cinéma, il ne s'est pas encore vendu de magnétoscope VHS. Donc l'intérêt de sortir vos films en VHS est limité, alors que vous commencez à en avoir un peu en Betamax, donc il y a pas mal d'avantages. Alors peut-être que c'est pour compenser cet avantage de départ de Sony. En tout cas, JVC va être plus attractif pour les partenaires que ne l'est Sony. Par exemple, Sony va refuser de fabriquer pour les autres, hein, OEM, c'est Original Equipment Manufacturers, c'est-à-dire c'est lorsque vous fabriquez des produits pour une autre entreprise qui va les vendre sous sa marque. Hein, donc concrètement, Sony ne voulait pas fabriquer des magnétoscopes pour Hitachi en mettant un beau logo Hitachi dessus. Alors que JVC, eux, ils acceptent de fabriquer des magnétoscopes au nom d'entreprises partenaires. Pour ceux qui néanmoins veulent les fabriquer eux-mêmes, ils proposent une forme d'aide à l'ingénierie de mise en œuvre de la fabrication. Alors que Sony accorde des licences sur la technologie, mais après débrouillez-vous, quoi. Enfin, alors que Sony dit, voilà, le standard c'est ça, je vais probablement le faire évoluer un peu, mais voilà, je définis toutes les caractéristiques du standard. Et après, moi, je vous accorde des licences, il n'y a aucun souci sur le standard en question. JVC va davantage raisonner en termes de consortium, c'est-à-dire de dire, voilà, je vous propose une première base, mais évidemment, nos magnétoscopes, ils vont évoluer, hein. Il n'y a aucune technologie qui reste figée après pendant des années et des années. Et ce que je vous propose, c'est que on le fasse évoluer ensemble. Et que donc, si vous avez des idées de perfectionnement, on puisse tout à fait les intégrer au standard. Et du coup, Hitachi, qui avait été approché par Sony pour rentrer dans le clan Betamax, va en fait rentrer dans le clan JVC. Et puis, JVC va avoir un autre allié de poids, qui est Matsushita. Alors, pourquoi un allié de poids? Déjà, c'est une très grosse entreprise, Matsushita, hein, elle fait partie de ce qu'on appelle parfois des zaibatsu japonais, hein, c'est des grands conglomérats qui ont des activités multiples. Et donc, bah, c'est une entreprise à la puissance financière considérable. Donc, s'il faut faire des investissements importants, ils seront capables de le faire. Et puis, ça a un autre avantage, c'est qu'au moment du lancement du U-Matic, Matsushita avait construit sur la base de prévisions de vente optimistes une grosse usine, très grosse pour l'époque. Et en fait, bah, comme le U-Matic n'a pas été un succès, cette usine tournait à une très faible proportion de ses capacités. Dans beaucoup d'entreprises, dans une situation comme ça, on aurait fermé l'usine. Parce que bah, ça veut dire qu'elle faisait des pertes. Hein. Je crois qu'elle avait déjà, ça faisait 5 ans qu'ils avaient une usine qui faisait des pertes, qu'ils maintenaient en fonctionnement. Alors, à la fois parce que bah, l'orientation des entreprises japonaises en moyenne est probablement un peu plus à long terme que par exemple les entreprises américaines, mais également bah, grâce à sa puissance financière qui faisait qu'il pouvait se permettre de maintenir pendant un certain nombre d'années une usine qui faisait des pertes. Sachant qu'il faisait des bénéfices dans d'autres domaines. Bref, Matsushita pouvait se le permettre, ce que n'aurait peut-être pas pu se permettre une entreprise plus petite, et notamment sans doute que JVC seul, s'ils avaient eu cette usine, aurait été obligé de la fermer avant. Bref, Matsushita a cette grande usine qui va donc pouvoir fabriquer des VHS. Donc ça va donner un avantage au clan VHS en termes de capacité de production. Et puis on va voir que Matsushita va jouer un autre rôle important. Il convient pour terminer sur Matsushita d'indiquer que Matsushita est aussi le principal actionnaire de JVC. Alors peut-être que vous me direz, ah bah donc c'était joué d'avance. Évidemment, ils ont intérêt à soutenir le standard de leur filiale. Oui et non, parce que même s'ils détiennent 50% de JVC, JVC est géré de façon très autonome, très indépendante. Et on aurait pu penser que, au contraire, quelque part, Matsushita aurait pu dire, bah, je ne vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Donc, moi, je vais faire des magnétoscopes Betamax, JVC va faire des magnétoscopes VHS, et puis, bah, si l'un des deux, enfin, si les deux subsistent, bah, comme ça, on sera présent sur les deux segments du marché, et s'il y en a un qui l'emporte, bah, j'aurai de toute façon déjà un pied dans le standard qui va l'emporter. Donc, ça aurait pu être tout à fait rationnel de la part de Matsushita de dire... Bah non, voilà, on va jouer la sécurité et puisque justement j'ai une filiale qui est dans l'autre camp, eh bien profitons-en pour être sûr de gagner puisque je serai dans les deux camps. Ce qu'a fait pas mal Samsung hein, sur des formats assez récents, on le verra plus tard. Bon, Mitsubishi et Sharp, c'est moins important, même si Mitsubishi, c'est un autre Zaibatsu, donc c'est une autre entreprise qui n'est pas super puissante dans le domaine de l'électronique grand public, mais qui est puissante dans l'absolu. Alors après, je vais vous faire un peu le récit de la bataille, pas mois par mois quand même, il ne faut pas exagérer, mais étape par étape, parce que je trouve intéressant de voir voilà, le déroulement. Donc là, on va juste dérouler, voir le résultat. Après, on fera une petite pause, puis après, on prendra une prise de recul un peu plus théorique sur justement ces batailles de standards. Donc, en début 1977, bah, Sony corrige le principal défaut de son Betamax en introduisant des cassettes de 2 heures. Et Au niveau du marché américain, on voit bien dans les deux camps que, certes, les entreprises japonaises sont déjà assez puissantes, hein, à l'époque, mais néanmoins que, les consommateurs américains, enfin, on va vraiment faire décoller le marché américain quand les grandes marques américaines vont, aussi proposer, des magnétoscopes, répondant à ces standards-là. Donc, Sony parvient à, négocier un accord avec le numéro 2 américain, du marché des télés et des magnétoscopes. Mais de son côté, Matsushita va signer un accord avec le numéro 1. Et alors là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, RCA, à l'origine, va plutôt être démarché par JVC, qui est le leader du standard. Mais RCA va imposer une exigence assez particulière, et va dire qu'il faut que une cassette puisse enregistrer un match de football américain complet. Or, visiblement, je ne suis pas du tout spécialiste de football américain, mais avec les pauses, etc., visiblement, ça dure très longtemps. Et donc, JVC va tiquer un peu parce que le seul moyen qu'il trouve pour beaucoup augmenter la durée des cassettes, c'est en gros que le système lise une image sur deux, et donc que ça dégrade la qualité de l'image. Du coup, il refuse. Et par contre, les ingénieurs de Matsushita, eux, n'ont pas cette préoccupation, enfin, en tout cas, elle est moindre, et donc ils vont justement mettre en place un système qui permet, en gros, de ralentir la vitesse de lecture, de sorte qu'avec une cassette qui a la même longueur de bande, hein, puisqu'on est sur de l'analogique, hein, on est sur des cassettes, donc avec une bande qui se déroule, donc avec la même longueur de bande qu'une cassette de 2 heures, et ben, eux, ils en font 4. Ça dégrade la qualité de l'image, mais ça répond au cahier des charges de RCA, qui du coup signe un accord avec Matsushita. En termes de prix, on est aux alentours de 1 300 $ au moment où le VHS va entrer sur le marché américain. Son entrée va déclencher une guerre des prix, mais voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, comme on est en période de très forte inflation, on a du mal à descendre très bas. Mais encore une fois, quand vous avez des prix moyens qui augmentent de 10% par an, et que les vôtres baissent de 20 à 25%, c'est que vous avez fait en réalité un effort énorme. À ce moment-là, le Betamax domine encore très largement le marché américain, hein, et on voit que les ventes augmentent considérablement. Ceci étant, les 38 000 magnétoscopes VHS, ce n'est pas sur une année complète, hein, donc ça joue quand même aussi. Donc ce n'est pas non plus un échec. Il ne faut pas le lire comme un échec cuisant de l'entrée des magnétoscopes VHS. Il s'en vend probablement à peu près autant qu'il se vendait au début de Betamax sur le marché. Mais comme ils arrivent en retard, du coup, ils ont ce défaut-là. Et donc, ça veut dire qu'à la fin de cette année-là, il y avait déjà quasiment 300 000 utilisateurs de magnétoscopes Betamax aux États-Unis pour seulement 40 000 utilisateurs de magnétoscopes VHS. Au Japon, c'est déjà plus équilibré. C'est-à-dire que, bon, il n'y a déjà plus, à ma connaissance, que Betamax et VHS. Hein, les autres ont été. On les vend plus. Mais du coup, vous voyez, c'est pas tout à fait 50-50, mais ça s'en rapproche un peu. En 1977, certes, en nombre d'unités vendues, le Betamax a toujours l'avantage, mais si on regarde cette fois les deux camps, on s'aperçoit qu'il y a déjà un certain avantage au camp du VHS, notamment, probablement, hein, du fait de la façon dont, encore une fois, JVC a géré ses partenariats en étant ouvert sur certaines des choses que refusait Sony. Donc du côté du Betamax, on a essentiellement des entreprises japonaises, hein, dont certaines comme Toshiba sont quand même des gros acteurs, hein, c'est pas ridicule, ou Anissi d'ailleurs. Et puis donc côté américain, il y a Zenith, côté européen, il y a personne. Ah oui, dès que je touche à autre chose, il faut que je réutilise la souris et pas les flèches. Côté VHS, donc même côté japonais, on en a quand même déjà plus. Hein. Et avec Matsushita, qui est un allié de poids, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Mais côté américain, on a le numéro 1, alors que c'est le numéro 2 en face, et puis on a d'autres entreprises derrière, hein, Magnavox, Sylvania, General Electric. Qui sont des acteurs importants, hein, des marchés de la télévision et par extension du magnétoscope. Et puis on a quelques Européens, hein, Telefunken, Thomson. Après, en Europe, il y a un autre acteur important qui est Philips, hein, dont on va voir qu'ils vont jouer un rôle un peu particulier. Et qui explique aussi que le camp européen paraît. Il n'y a pas beaucoup de membres. Hein, et donc en 1978, donc vous voyez que il y a eu un gros décalage dans le lancement entre les deux standards au Japon, un écart déjà un peu moins important aux États-Unis, et là cette fois ils sont. Lancé en même temps en Europe, c'est probablement aussi une petite erreur de la part de Sony, c'est de considérer que l'Europe allait suivre et que l'important c'était de dominer les marchés japonais et américains. Et du coup, alors qu'ils auraient eu la possibilité de se créer aussi cet avantage en termes de timing d'entrée en Europe, ils l'ont pas fait. Alors peut-être aussi que leur capacité de production n'aurait pas suivi, je ne sais pas exactement pourquoi. Aux États-Unis, cette fois, il y a un effet ciseau, hein, c'est-à-dire qu'on a une nette baisse des ventes du Betamax et celle du VHS les dépasse largement. Donc même si en nombre d'unités installées, ce qu'on appelle la base installée, le Betamax est toujours un peu devant, on voit que le VHS a quand même rattrapé une grosse partie de son retard. Sony, pourtant, réussit à rattraper les performances de Matsushita. Hein. Et on peut aussi, du coup, enregistrer un match de football américain complet, publicité comprise, spectacle d'avant-match compris, etc., en entier. Par ailleurs, le Betamax a aussi un autre avantage, c'est le nombre de titres disponibles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de films disponibles en Betamax qu'en VHS à ce moment-là. Mais c'est un avantage qui n'est pas si important que ça, en fait, parce que l'utilisation principale des magnétoscopes, c'est l'enregistrement d'émissions de télévision et non pas la visualisation de cassettes préenregistrées. Et c'était là-dessus que, par exemple, le standard de Toshiba, dans les années 60, s'était cassé les dents, entre guillemets. Puisqu'ils étaient persuadés que la principale utilisation serait de visualiser des cassettes. Comme c'était un peu compliqué à mettre en œuvre à des coûts faibles, ils n'avaient pas intégré dans leur magnétoscope la possibilité d'enregistrer en couleur. On pouvait visualiser des cassettes préenregistrées en couleur, mais quand ils enregistraient en noir et blanc. Et c'était probablement une des raisons de l'échec des magnétoscopes de Toshiba. Donc ça, c'est un point que vous pouvez retenir hein, en termes de management de l'innovation. Il est extrêmement fréquent qu'on anticipe assez mal l'utilisation future d'un produit. C'est-à-dire qu'on pense qu'il va être utilisé d'une certaine manière et très souvent il est utilisé autrement. En 1979, ça repart un peu pour le Betamax, sans doute notamment grâce à ses cassettes de 3h puis 4h30, hein, qui lui redonnent de l'intérêt sur le marché américain. Mais néanmoins, voilà, on est cette fois plutôt sur du 60% VHS, 40% Betamax. Donc on commence à avoir un petit déséquilibre entre les deux. Philips, lui, alors Philips, c'est mauvais timing. Ils avaient lancé, alors je crois que c'est en 1972, une première série de magnétoscopes qui s'était à peu près correctement vendue en Europe, mais voilà, avec des niveaux de vente qui étaient pas gigantesques quand même, qui n'étaient pas ceux qui vont être atteints avec ces magnétoscopes-là. Et puis ben, finalement, après, ils vont lancer en 1979 un standard qui était de qualité supérieure à celui du Betamax et du VHS. Simplement, ben, c'est probablement un peu trop tard. Donc, vous voyez, ils sont arrivés d'un côté trop tôt parce que ben, la qualité n'était pas encore tout à fait là, et d'un autre côté trop tard parce que ben, ils s'étaient déjà vendu beaucoup de magnétoscopes Betamax et VHS, et donc là, ils faisaient la course derrière. Par ailleurs, leur magnétoscope était plus cher, donc bah finalement, ils n'obtiendront jamais une part de marché significative. Et donc, on peut. Voilà, le V2000 sera un échec pour Philips. En 1980, là, cette fois, bah, le VHS domine un peu partout. Hein, c'est le cas en Europe. Alors, on n'a pas de données extrêmement précises, sauf j'avais trouvé dans un article sur le sujet les parts de marché en Grande-Bretagne. Et en Grande-Bretagne, le Betamax a 25% de parts de marché. Alors, ça ne veut pas forcément dire que le VHS en a 75%, parce qu'il y a quand même un petit peu de V2000. Et puis, il y a peut-être encore quelques ventes des vieux standards de Philips qui écoulent peut-être encore des stocks à bas prix. Donc, c'est peut-être pas, les deux là sont peut-être pas 100% du marché, mais à mon avis, ça doit être plutôt 85-90. Donc, le VHS domine quand même assez nettement, hein. Aux États-Unis, bah, ça continue, c'est-à-dire qu'on reste, enfin, ça s'accentue même un petit peu. Hein, on passe de 1,5 à magnétoscope VHS vendu pour un Betamax à quelque chose qui ressemble plus à 1,7, 1,8. Hein. Par ailleurs, si vous faites le cumulé depuis le début, là, cette fois, il y a la base installée de magnétoscope VHS est supérieure à la base installée de magnétoscope Betamax. Donc, à partir de ce moment-là, il devient plus intéressant pour les studios de cinéma, par exemple, de sortir leurs films en VHS qu'en Betamax. Et puis, au Japon aussi, le VHS, c'est 2/3 du marché. Donc, il y a à peu près 2 ventes de magnétoscope VHS pour un Betamax. Donc, là, on voit que ça commence à se déséquilibrer fortement. Et puis, bah, ça va ne plus ne faire que, voilà, là, je vais accélérer, hein, parce qu'à partir de ce moment-là, les phénomènes qu'on va détailler par la suite vont faire que bah, ce déséquilibre ne va faire que s'accentuer. Donc, voilà, 3 pour 1 aux États-Unis en 81, rapport comparable en Grande-Bretagne en 82, et on voit les quantités, hein. Qui ont complètement changé d'ordre de grandeur, hein, parce que la Grande-Bretagne, c'est quand même un marché plus petit que le marché américain. Bon, les caméscopes, on en redira quelques mots, mais bon, à ce moment-là, ils lancent leur premier caméscope, mais je laisse ça de côté. Les alliés de Philips, qui s'était dans un premier temps allié au standard V2000, bah, voyant que ça ne décolle pas, ils vont tous un par un abandonner Philips, et il n'y en a aucun qui va se rallier au standard de Sony, c'est-à-dire ils vont tous se rallier au VHS. Donc là, on voit qu'en Europe, c'est 100% des entreprises font du VHS. En 84, c'est plus 3 pour 1, mais 4 pour 1 en Grande-Bretagne. Et on peut supposer que c'est assez représentatif, hein, c'est pour ça que je vous donne la Grande-Bretagne, hein, ça doit être assez représentatif du marché européen. Et du coup, bah, tous les membres du camp Betamax se rallient au VHS. Et la même année, Philips abandonne le V2000 et se rallie aussi au standard VHS, si bien qu'il n'y a plus qu'une seule entreprise qui propose des magnétoscopes Betamax, c'est Sony. Sony va s'acharner jusqu'en 1988 à fabriquer des magnétoscopes Betamax sur quelques marchés secondaires sur lesquels le Betamax est resté un peu important. Mais bon, voilà, ils ont perdu la guerre. Et donc voilà comment le VHS a fini par écraser le Betamax, alors qu'a priori, au début, les forces en présence auraient plutôt fait penser, le démarrage précoce de Sony aurait pu faire penser que le Betamax aurait dû l'emporter. Voilà. Bon, j'ai largement dépassé le milieu du cours, mais je vous propose quand même de faire une petite pause pour souffler un petit peu. Et après ça, bah, on va prendre un petit peu de recul pour essayer d'expliquer pourquoi. Enfin, voilà, quels sont les phénomènes qu'il y a derrière ces batailles de standards d'un point de vue plus théorique. Voilà. Et puis, bah, moi, pendant ce temps-là, je vais aller regarder un petit peu si je trouve une explication aux raisons pour lesquelles vous n'avez pas accès au cours de management stratégique de l'innovation sur le e-campus. Donc, bah, à dans 5-10 minutes.